Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, un homme qui a tenté de changer le cours de l'histoire, Mirabeau. Bonjour, Amélie de Bourbon-Parme.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va.
Vous êtes romancière.
Oui, enchantée.
Historienne. Et vous consacrez un article à cet homme politique dans Le Parisien aujourd'hui week-end, oui. En partenariat avec RTL.
Un homme très décrié et que je voudrais réhabiliter.
Eh bien, on va explorer sa vie, justement. Tiens, en un mot, avant de raconter son incroyable histoire, comment Mirabeau a-t-il tenté de modifier le destin de la France et forcément aussi celui de Louis XVI et Marie-Antoinette ?
Il a tenté de les conseiller et de leur donner quelques idées un tout petit peu plus avancées, à savoir d'aller vers une monarchie parlementaire comme c'était le cas en Angleterre. C'est le grand modèle de Mirabeau.
Parce qu'ils voulaient faire quoi, Louis XVI et Marie-Antoinette ?
Ils voulaient rester à l'ancien régime.
Oui, ne rien lâcher.
Ne rien lâcher, évidemment. Et donc, en ne voulant rien lâcher, ils ont dû tout lâcher. Donc,
bon, et voilà, ça n'a pas marché, les conseils de Mirabeau.
difficile la leçon, mais bon.
On va essayer de comprendre pourquoi ces conseils n'ont pas été suivis.
Et pourquoi on a dit que Mirabeau était un traître ? C'est très étonnant.
C'est pour ça, et on a bien compris. Et on va, grâce à vous, peut-être le réhabiliter. À tout de suite sur RTL.
RTL.
Messieurs, en ces jours sombres, ce n'est pas au roi que je m'adresse, mais à ses conseillers qu'ils répondent de leurs décisions abjectes.
La curiosité est un vilain défaut.
Ont-ils prévu tous les désordres, toutes les calamités que leurs initiatives peuvent entraîner?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Messieurs les conseillers du roi, prenez garde!
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Mirabeau, incarné par l'acteur Bernard Fresson dans L'été de la Révolution, portrait d'un homme qui a failli sauver la tête de Louis XVI, Marie-Antoinette et de la monarchie aussi. Mirabeau avec la romancière et historienne Amélie de Bourbon-Parme. Alors Mirabeau, il faut poser le personnage déjà parce qu'on est un peu loin évidemment. C'est d'abord une tronche, un physique.
Oui,
il
alors,
ressemble à quoi ?
Il est assez décrié d'abord pour son physique parce qu'il avait une tête énorme, il était hydrocéphale. Donc déjà, ça lui donnait une allure pas très élégante. Et il avait surtout eu la petite vérole à l'âge de 3 ans qui avait été très mal soignée. Donc, il avait plein de crevasses sur le visage et cheveux, enfin, cerise sur le gâteau, il avait un pied tordu.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il disait sur sa laideur, Mirabeau ? Parce qu'il assumait, j'imagine, un bonhomme pareil.
Absolument. Il était totalement en phase avec ça. Il disait, on ne connaît pas toute la puissance de ma laideur. Donc, c'était vraiment, il annonçait la couleur tout de suite. Et c'est vrai qu'il était à la hauteur de cette laideur.
Est-ce qu'il était vilain ?
Il était brillant. Oui.
Non, il n'était pas méchant. Méchant,
il était
vilain.
Il n'était pas méchant, mais il était brillantissime. Ah, oui. Il avait une éloquence qui a permis de lui faire avoir une vie absolument incroyable, d'être le député. Au tiers état qui a réussi à totalement retourner les foules. Et c'est vrai que cet homme a été il a été mal vu parce qu'il était issu de la noblesse et qu'il a été une sorte de transfuge, il est passé du côté du tiers état. C'est ça qu'on ne lui a pas pardonné.
Alors grâce à Mirabeau, évidemment, on plonge dans la Révolution, on raconte ici aussi l'histoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et notamment cette rencontre entre Mirabeau et la reine.
Oui, alors
le
ça,
3 juillet 1790,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est au château de Saint-Cloud. Alors il faut se remettre un peu dans le contexte. En fait, quelques semaines plus tôt, le 5 mai, les révolutionnaires, donc les femmes de Paris, c'est cette fameuse journée où les femmes viennent à Versailles chercher le roi, la boulangère, le boulanger, le petit mitron, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Il faut se mettre dans le contexte, et que les gens sont très pauvres, c'est la disette, et le roi ne prend pas la mesure de la situation. Et il va convoquer une sorte d'armée pour le protéger, et ça va mettre le feu aux poudres, et donc tout le peuple parisien vient le chercher à Versailles, et le ramène aux Tuileries. Donc évidemment, c'est une forme d'emprisonnement qui se passe. Et Marie-Antoinette réussit, à force de supplications, à aller pendant les vacances d'été, les vacances ou en tout cas la période un peu chaude, s'installer à Saint-Cloud. Mirabeau, à ce moment-là, il est désespéré parce qu'il essaye de conseiller Louis XVI pour essayer de lui faire comprendre que la révolution est en marche et qu'il doit faire des compromis. Il doit aller vers une monarchie parlementaire. Le roi est indécis, c'est la pire situation possible puisqu'à un moment donné, il a l'air d'être d'accord, après il revient en arrière et donc ça attise une haine terrible contre lui. Donc Mirabeau a pris des contacts très tôt avec le roi. C'est autour de janvier 1790. Il l'a rencontré.
Mais très secrètement, j'imagine.
Secrètement. Personne n'est au courant, parce qu'évidemment, lui, c'est le symbole du tiers-état. C'est l'homme qui a réussi à rassembler une vraie assemblée constituante. Donc, c'est vraiment celui qui est vraiment le meneur de toute cette troupe. Et ça aurait fait évidemment un scandale. Il se serait fait assassiner dans la seconde.
Et ce rendez-vous de juillet avec Marie-Antoinette, c'est une sorte de dernière chance.
Oui, parce que le roi ne comprend pas. En fait, il le conseille, il lui a envoyé 40 notes. 40 notes depuis janvier 1790 pour lui expliquer comment faire. Mais le roi n'écoute rien. Et il se rend compte que c'est Marie-Antoinette qui a les clés de l'autorité et du pouvoir sur son mari. Donc il se dit, il faut que j'ai une entrevue avec elle. Et donc il obtient cette entrevue.
Comment se passe l'entrevue ?
Elle se passe dans les jardins du château de Saint-Cloud. Et malheureusement, enfin heureusement, la reine accepte quand même de le rencontrer. Elle est dégoûtée, elle le considère comme une sorte de monstre. Elle est totalement révulsée, mais elle sent bien que peut-être c'est pour elles la seule solution de faire évoluer positivement pour eux la situation.
Qui sont les ennemis de Mirabeau dans ce jeu d'influence?
Dans ce jeu d'influence, évidemment, il y a le Club des Jacobins, il est membre de ce club, il y a les plus fervents révolutionnaires qui sont déjà Robespierre, Danton, Marat. Mmh. Le problème, c'est que c'est un tout petit groupe d'hommes, mais c'est les plus extrêmes qui, évidemment, vont être les plus forts et qui vont s'imposer. Mais à l'époque, il y a quand même une majorité de gens qui soutiennent une monarchie parlementaire.
Qu'est-ce que Mirabeau propose à Marie-Antoinette? Qu'est-ce qu'il propose comme solution pour sauver la tête de tout le monde? La monarchie.
Il a plusieurs idées. Alors, c'est un pragmatique, c'est un politique. Donc, il est face à Marie-Antoinette, qui est la femme de l'ancien régime, qui ne veut céder sur rien. Donc, évidemment, elle a du mal à comprendre ce dont il lui parle. Il lui dit, il faut d'abord corrompre vos adversaires. Donc, elle ne comprend pas même de quoi il s'agit. Il lui dit qu'il faut absolument diviser ceux qui sont des ennemis. Et puis, il lui dit, n'ayez pas peur d'un conflit, imposez votre autorité, vous avez les armées vendéennes avec vous. Et là, évidemment, la reine est assez heurtée, parce qu'elle dit, le roi n'acceptera jamais de verser le sang du peuple. Donc, voilà, on a tout le dilemme qui est en place. Et le fait qu'elle va essayer quand même de faire passer ses messages à son mari, au roi, mais ça ne va pas être suffisant. Donc, c'est tout le sujet après de la fuite à Varennes.
Imaginez si Mirabeau avait été entendu, peut-être qu'on serait en train de s'intéresser au mariage du futur roi.
Et que
le destin des enfants royaux serait à la une des journaux français. Voilà.
Oui, en tout cas, il était très isolé.
C'est
la preuve.
Chronique.
Il était tout seul à le conseiller et il était évidemment très très prudent. D'ailleurs, quand il est allé la rencontrer, il s'était caché. Enfin, il fallait absolument pas que ça se sache.
Mais pourquoi Mirabeau n'a-t-il pas l'oreille attentive de Louis XVI? L'explication se trouve peut-être dans ses jeunes années. Il faut dire que l'homme politique se trimballe une bien mauvaise réputation. On vous raconte pourquoi tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
À la maison, sur la route, au bureau, dans vos ateliers, dans les champs, où que vous soyez, vos témoignages sont chaque jour le cœur d'On est fait pour s'entendre. L'émission qui vous rassemble, c'est de 15h à 16h en direct sur RTL.
RTL.
Si Denis Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
On remonte le temps dans la curiosité, vous le savez, c'est l'un de nos passe-temps justement favoris. On est en pleine Révolution française, quelques jours avant que Louis XVI et Marie-Antoinette perdent la tête. Un homme essaye de changer le cours de leur destin. C'est Mirabeau avec vous, Amélie de Bourbon-Parme. On découvre l'histoire de cet homme et qui est souvent présenté comme le traître, comme le félon de la Révolution. Et vous cherchez à le réhabiliter et donc c'est ce qu'on fait grâce à vous. On l'a dit, Mirabeau tente de convaincre Marie-Antoinette et non Louis XVI parce qu'il est mal aimé de Louis XVI, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, il est mal aimé, oui, parce que c'est vrai qu'il incarne une vie très libertine. Il a eu des phrases que dans sa jeunesse absolument incroyables. Il est allé en prison 4 ou 5 fois. Son père, qui le détestait littéralement, il a été élevé par un homme qui était d'une sévérité absolue, qui a quand même demandé au roi d'envoyer des lettres de cachet pour le faire emprisonner à l'île de Ré, dans la prison de l'île de Ré.
Et ça a marché, il a vraiment été interné?
Absolument,
Mirabeau.
Il a été totalement en prison. D'ailleurs, ça a aidé son imagination à créer de nouveaux ouvrages. Donc à chaque fois, il crée de nouvelles choses à partir des épreuves qu'il avait dans la vie. C'est un homme incroyable. Son père l'avait fait mettre en prison parce qu'il avait aussi énormément de dettes, donc pour le protéger contre lui-même. Et également, il a une vie amoureuse extrêmement dispendieuse, on va dire.
Ça veut dire quoi pour l'époque?
Pour l'époque, c'était quand même assez fort. C'est-à-dire que il commence à 19 ans. Il est dans son régiment, il commence à séduire une femme. Son colonel est furieux contre lui, donc il va quitter son régiment pour échapper à la vengeance de ce colonel. Après, il va intégrer un nouveau régiment, il va partir en province, et là, il va séduire la femme d'un marquis, qui est un notable de province, et elle a 17 ans.
Il va lâcher l'affaire?
Ah ben non, pas du tout. En tout cas, le mari va lâcher l'affaire. C'est Mirabeau qui part avec la jeune femme. Il part
en Suisse. C'est très romantique, il l'enlève.
Mais ça préfigure le romantisme. Enfin, c'est une histoire absolument rocambolesque. Et il va s'installer dans les Provinces-Unies, il va en vivre des jours heureux, c'est l'amour de sa vie. Et évidemment, il est poursuivi pour rapt de séduction, c'est ça le motif d'inculpation. Il est condamné par contumace, et finalement, il va quand même être rapatrié en France, mais entre-temps, il a quand même la possibilité, enfin en tout cas le temps, d'écrire un essai sur le despotisme éclairé. Donc il va vouloir évidemment s'en inspirer pour conseiller Louis XVI. Ensuite, il va écrire un essai sur les prisons et les lettres de cachet. Et enfin, un livre érotique. C'est grâce à l'influence, ou grâce, en tout cas, c'est une émulation peut-être. Il rencontrait le marquis de Sade dans sa prison.
C'est intéressant aujourd'hui de lire Mirabeau. Est-ce que vous
conseillez? Oui, évidemment. Ouais. Oui, puis c'est une très belle plume. Et puis la littérature aussi amoureuse qu'il a écrite, puisqu'après, il va être séparé de Sophie, puisqu'il va.
La femme mariée.
La femme mariée. marier, qui va partir au couvent, et il va lui écrire les plus belles lettres d'amour, qui sont, voilà, bon après c'est peut-être un peu mièvre par rapport au style de Mirabeau, mais c'est vrai que c'est quand même une œuvre notable.
Alors vous nous l'avez dit, il sera élu député du tiers-état, est-ce que c'est un député brillant? Comment se fait-il remarquer?
Oui, il se fait remarquer parce qu'il a un talent oratoire assez exceptionnel, et donc il le met au service d'un double jeu, c'est vrai. Alors on peut dire que c'est un traître, mais
c'est un homme politique.
C'est un homme politique, donc finalement c'est pas si surprenant. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque les partis sont tellement opposés. On a d'un côté les pro-monarchiques qui quand même, bon après il y a les émigrés qui sont les plus extrêmes, qui n'ont pas accepté du tout la révolution, et puis il y a quand même la majorité qui sont les monarchiens qui croient à un compromis, parce que on a connu que la monarchie depuis 800 ans, donc pour tout le monde ça paraît évident de continuer, sauf que les aspirations du tiers-état, de la bourgeoisie, sont évidemment d'abord lire les privilèges fiscaux et toute une série d'inégalités insupportables.
Est-ce que Mirabeau est totalement passionné par cette question de protéger en fait la monarchie en,
oui,
en...
il y croit.
Ou est-ce qu'il y a des raisons un peu aussi financières? Est-ce que sa coquinée avec Louis XVI, ça permet aussi de renflouer ses dettes, par exemple?
Toute sa vie, il a couru après l'argent, et c'est vrai que Louis XVI va le payer grassement pour ses conseils. Pour autant, il le paye grassement, mais il ne l'écoute pas. Donc c'est vrai que c'est ça qui embête surtout Mirabeau, et que ça ne va pas lui coûter la vie, mais néanmoins... tous ses efforts pour tenter de convaincre le roi vont tomber totalement à l'eau. Mais il a été sincère quand même, parce qu'il a quand même défendu pendant toute la négociation sur l'Assemblée constituante le veto du roi. Il a défendu les intérêts du roi avec vraie sincérité, sauf qu'il était obligé en parallèle quand même de continuer à défendre une forme d'extrémisme. C'est ça qui n'a pas plu au roi et à la reine, qui se sont dit mais qui est cet homme? C'est un traître. De quel bord est-il?
Ami de Bourbon-Parme, vous nous décrivez un orateur brillant. Est-ce qu'il y a des phrases de Mirabeau prononcées
Il y a cette fameuse phrase nous ne sortirons de cette salle, de cette place, que par la force des baïonnettes. Et ça, c'est la phrase un peu marquante au cours de laquelle va basculer la révolution. C'est-à-dire que là vont se rassembler vraiment les députés du tiers-état ensemble pour former cette assemblée constituante qui va créer cette constitution.
Nous sommes ici par la volonté du peuple. L'un des premiers à prononcer cette phrase.
Oui, tout à fait, parce que vous vous souvenez, ou en tout cas les cours d'histoire sont peut-être un peu loin, mais il y a quand même trois ordres. Il y a le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et avant, quand on convoquait les états généraux, c'était le vote par ordre. Alors évidemment, le tiers-état était bien avancé, ils étaient toujours en minorité puisque le clergé s'allie à la noblesse. Et ce que propose Mirabeau, c'est le vote par tête, qui consiste à dire que finalement les tiers-états, ils sont plus nombreux, donc c'est la démocratie qui parle.
Voilà. Bon, vous nous l'avez dit, Mirabeau va échouer, il ne réussira pas à convaincre le roi.
Il est ambigu, c'est un homme paradoxal, mais la période est ambiguë et paradoxale.
Mais on n'a pas fini d'en parler.
On a encore un peu de temps pour des... On voit que vous avez vraiment la passion de Mirabeau.
J'adore votre t-shirt Mirabeau.
Vous portez haut les couleurs de Mirabeau. En tout cas, on va comprendre grâce à vous, pourquoi ça a échoué, pourquoi le roi ne l'a pas écouté. Écoutez, à tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple.
Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent.
Et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
RTL, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le révolutionnaire qui voulait sauver le roi, c'est le thème de notre curiosité, le titre de l'article de notre invitée Amélie de Bourbon-Parme qui paraît dans Le Parisien aujourd'hui, week-end, à découvrir. Ce député du tiers-état, Mirabeau, qui s'était mis en tête de convaincre le roi de rétablir son autorité et d'imposer une monarchie, on dit constitutionnelle.
Hein. Alors, on dit parlementaire.
Parlementaire.
Parce que, voilà, il fallait une constitution pour qu'il y ait un parlement, mais voilà.
Pourquoi Louis XVI n'écoute finalement pas Mirabeau?
Parce qu'il est, profondément fidèle à son histoire, à savoir il est le légataire de l'Ancien Régime, d'une monarchie de droit divin, et pour lui il est inacceptable de faire rentrer un compromis avec le peuple qui pourrait gouverner avec lui.
Et le destin s'en mêle, que se passe-t-il le 2 avril 1791 ?
Eh bien c'est la mort de Mirabeau. Mirabeau voulait continuer à naviguer entre une défense des intérêts de la monarchie parlementaire et un soutien quand même aux idéaux de la Révolution. C'est quand même lui, il faut le rappeler, qui a participé à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a co-rédigé le préambule. Il a défendu, évidemment, contre la traite des Noirs. Enfin, c'est vraiment un homme, un humaniste. Ce qui se passe, c'est quand il meurt, et alors on a dit qu'il avait été empoisonné. Il avait juste eu une vie très dissolue, il travaillait énormément, et donc on peut imaginer qu'il n'a pas eu besoin de poison pour mourir.
Il meurt jeune.
Il meurt à 42 ans. Absolument. Il paye ses excès. Donc personne ne s'étonne vraiment, bien qu'à l'époque le poison soit quand même bien utilisé aussi. Et ce qui va se passer, c'est que c'est un héros de la Révolution et il y a un deuil total national qui se met en place. Et surtout, ça c'est vraiment quelque chose de passionnant, c'est que bon, d'abord il y a une chose aussi incroyable, c'est que le dernier texte de lui lu par Talleyrand juste après sa mort, c'est un texte qui porte justement sur l'égalité des partages dans les successions en ligne directe.
Oh, c'est apparaît.
Ouais.
C'est et pour quelle raison
il
Eh ben alors on peut imaginer qu'il ait vécu des choses tellement difficiles avec son père et donc sa famille qu'il ait voulu justement prémunir les héritiers contre le fait d'être déshérité. Donc oui, c'est tout à fait d'actualité. Et on doit ça à Mirabeau, absolument.
Mirabeau qui sera d'abord un héros avant de devenir un félon. Alors, comment s'est passée la bascule en fait?
On érige des statues, des bustes en son honneur. C'est un deuil national et on décide pour l'occasion de transformer l'église Sainte-Geneviève, qui est une basilique royale, en Panthéon. Et c'est lui qui inaugure le fameux monument du Panthéon.
Il va y rester combien de temps au Panthéon, Mirabeau?
Pas très longtemps, parce que un an après sa mort et qu'il ait été enterré là, on découvre dans l'armoire du roi, au moment où il est arrêté aux Tuileries, on découvre toutes les notes de Mirabeau dans lesquelles il conseillait le roi, qui est donc la preuve qu'il jouait double jeu.
Et c'est rendu public.
Et alors là, évidemment, la Révolution est trahie et elle considère que Mirabeau n'a plus aucune raison d'être dans le Panthéon, donc on va le dépanthéoniser.
Que devient son corps?
C'est un mot qui n'existe que pour lui. Et c'est le premier à être entré au Panthéon et c'est le premier à en être sorti. Et qui le remplace? Eh bien, c'est Marat. Qui est ce sanguinaire révolutionnaire, et ben il est là au Panthéon. C'est vrai que c'est quand même étonnant quand on
pense. Il repose où, Mirabeau, aujourd'hui?
Aujourd'hui, on ne sait pas. Sa
dépouille le corps a
été perdue totalement. Il a été enterré dans un cimetière qui s'appelait Sainte-Catherine. Et en 1798, on a perdu la trace de cette fameuse tombe.
Est-ce qu'il a été réhabilité malgré tout? Vous nous dites, moi je veux le défendre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une période de notre histoire où il a été un peu réhabilité?
J'ai pas vraiment l'impression. Hein. On n'a pas fait de cérémonie pour remettre en scène une forme d'appartenance à ce monument des grands hommes. Donc je pense que le mouvement de désaveu a été très très fort.
Amélie de Bourbon-Parme, qu'aurait dit Mirabeau avant de mourir? Il y a forcément les derniers mots des grands hommes et des grandes femmes.
Oui, il a dit des derniers mots sur la peur que justement la monarchie soit piétinée et que ses cendres soient littéralement livrées
en pâture. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a jamais connu la fin de l'histoire.
Il ne l'a jamais connu, mais il l'avait prédit, il la voyait venir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a voulu conseiller le roi. Il avait vu que le peuple allait prendre toute la force et toute la place.
Et finalement, quel scénario va choisir? Il y avait plusieurs scénarios possibles. Quels scénarios vont choisir le roi et la reine?
Le roi et la reine vont finalement accepter de partir, de quitter la France et de rejoindre les armées des puissances royales impériales qui sont aux frontières et qui ont déclaré la guerre à la Révolution. Et ils partent, et c'est la fameuse fuite à Varennes au mois de juin 1792, et c'est ça qui vraiment prépare 1791, excusez-moi, et qui prépare la chute de la monarchie. Ça, c'est vraiment le divorce entre le roi et le peuple.
Merci beaucoup pour ce beau portrait de Mirabeau, Amélie de Bourbon-Parme. À lire, à découvrir dans Le Parisien aujourd'hui, week-end. C'est en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.